Alors, effectivement, à chaque fois qu'on en parle, on est ému parce qu'on vit cette souffrance qui est tellement intense. Moi, je me souviens, même à l'hôpital, le deuxième jour, elle m'avait donné des tellement fortes doses de Xanax que je dormais. Mon mari, il était venu me voir dans la chambre et me dire « t'as bonne mine ». Mais le burn-out, c'est pas un effet de mode, ce sont des vrais symptômes, c'est une vraie maladie. Voilà, c'est vraiment en fait des symptômes à part, c'est pas une dépression, ça n'a rien à voir. C'est des symptômes d'anxiété, de traumatisme, de perte de soi, de confiance en soi. C'est vraiment quelque chose de très personnel et à la fois qui est commun parce qu'on a tous ces mêmes symptômes. C'est un épuisement, on est vidé, voilà, on n'a plus envie de rien, c'est une surfatigue en fait.
Je suis fatiguée, j'en ai assez.
Le blues des blues, un documentaire de Charlotte Béchler.
Simone, je suis actuellement gestionnaire de lit. Avant, j'étais cadre de pôle. C'est comme si c'était quelque chose qui avait été pré-programmé. Ce qui a fait, c'est que j'avais une forte pression de la part de la direction parce que les soignants avaient décidé de mettre... en jeu les syndicats, et donc les syndicats à l'hôpital, comme on dit surtout là, veulent, entre guillemets, bouffer du cadre. Donc on leur a déroulé un tapis rouge, les soignants leur ont déroulé un tapis rouge. Nous étions dans un pôle éminemment instable, dans le sens où moi j'étais seule, j'avais trois casquettes, il n'y avait pas de cadre pour vraiment faire tampon et faire les choses, donc je ne peux pas être sur quatre services en même temps, ce n'est pas possible. Plus faire mon travail de cadre de pôle, ça faisait beaucoup de choses, et former encore des futurs cadres qu'on m'avait mis, une en particulier. Voilà, donc c'était pas possible. Et puis, donc, à un moment donné, la direction a dit « on vous met en tant que cadre dans votre propre service ». Alors j'ai dit « ça c'est non », parce que ça avait beaucoup. Je continuais mon travail et tout d'un coup, j'ai su, un médecin m'a dit « est-ce que c'est vrai que vous allez partir ?» J'ai dit « oui, c'est vrai ». J'ai dit « mais comment vous êtes au courant ?» Je n'ai parlé à personne et il m'a dit « ce sont les syndicats qui sont en train de téléphoner et de prévenir les soignants ». Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit « stop ». Là, on parle de protection du personnel et il n'y en a pas. Je n'ai pas vraiment explosé comme disent certains, mais j'ai dit « stop ».
Je m'appelle Bruno, je suis médecin généraliste, actuellement en invalidité pour cause professionnelle. Beaucoup, beaucoup d'épuisement qui s'est installé sur 20-30 ans avec les études, avec des travails de nuit, avec des longues gardes, ensuite avec l'installation, puis une patientèle âgée, épuisante, mourante, malade. Je pense que les patients sont hyper exigeants et en plus ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits, ils ont même pas le droit, même pas le besoin de payer. Donc ils viennent avec leur carte vitale et puis voilà, vous êtes là assis comme une machine à délivrer des ordonnances, à faire ce qu'ils ont envie. Voilà, et je veux, et je veux, et je veux, et je veux. Et ça doit être mis en, il doit y avoir une règle qui doit être mise en place pour plus de respect du médecin. Une administration de plus en plus embêtante, emmerdante, je veux dire même la non reconnaissance du médecin, enfin du travail en fait quoi. Dans mon cas, je me suis épuisé très rapidement sur une quinzaine d'années. Et ensuite, bon, il y a eu un suicide de mon collègue. Il y a eu ensuite séparation avec le nouveau collègue après 10 ans d'association. J'ai fait un premier accident grave en 2004. J'ai fait également un syndrome de menace d'infarctus avec risque de mort subite en 2009. J'ai fait suite à ça, le burn-out était déjà en cours de route. Il s'est définitivement installé après le départ à la retraite de ma secrétaire, etc. Je me suis arrêté de travailler, je me suis mis en arrêt de travail, et suite à ça, j'ai fait un AVC supplémentaire, donc j'étais paralysé. Voilà, donc ceci a conduit à l'arrêt de mon exercice.
Statistiquement, on dit que les branches les plus touchées sont les anesthésistes, les médecins généralistes, les psychiatres et les urgentistes. Alors pourquoi ? Bon, les anesthésistes, on pense que c'est en partie dû au fait que les anesthésistes travaillent avec des chirurgiens, et c'est ce qu'on appelle un petit peu le couple infernal. Deuxièmement, les anesthésistes ont si on peut dire, l'avantage de savoir ce qu'ils doivent prendre pour se suicider. Les urgentistes, c'est un petit peu la même chose, hein, si ce n'est eux qu'ils sont encore plus surchargés de travail. La surcharge de travail, l'isolement, hein, parce que les médecins généralistes, en général, travaillent seuls. Comme ils sont surchargés de travail, ils ne peuvent pas consacrer de temps ni à leur famille, ni à leurs amis. Donc, pour eux, il n'y a plus que le travail, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et un beau jour, ils craquent.
J'étais très fatiguée, mais je n'arrivais pas à dormir. J'avais pas faim ou faim de sucre pour tenir ou pour compenser. C'était pas de la faim physique, c'était plutôt de la faim psychologique, si je puis dire. Pour tenir, au lieu d'avoir une alimentation saine, ben, je mangeais du sucre. Quand ça s'est mis en place, mon burn-out, j'ai eu des hallucinations la nuit.
3 fois sur 4, elles ne sont pas conscientes qu'elles font un burn-out. Stéphanie Moinet, je suis médecin psychiatre depuis 1999. Souvent, elles ont des parcours chez le médecin généraliste parce qu'elles avaient mal au dos, parce qu'elles n'arrivaient pas à dormir, parce qu'elles avaient des troubles digestifs. Et le médecin généraliste, lui, perçoit quand même la problématique psychique, envoie la personne chez le psychiatre. Et c'est vrai, chez le psychiatre, on leur fait un diagnostic parce qu'ils ont le tableau spécifique du burn-out. Et donc là, c'est souvent une découverte.
Quand on a mis le traitement en route, donc j'ai beaucoup dormi, pour récupérer, hein, vraiment. Après, par contre, j'avais beaucoup de mal à m'investir dans quelque chose. Je n'arrivais plus à lire. Je regardais la télévision, mais comme une vache qui regarde un train. Hein, c'est-à-dire, je ne savais même pas dire ce que j'avais vu. C'était de l'occupationnel, mais visuel, c'est tout. Alors, le fait de vivre en couple et que mon mari rentre à midi, pour déjeuner, ça facilitait les choses parce que ça m'obligeait tout d'un coup à me mettre en route pour préparer le repas et être là. Mais dès qu'il était parti, je ressombrais dans mon inactivité. Puis bon, je laissais un petit peu tout aller à volo. Rien ne m'intéressait. J'avais pas du tout envie de voir les gens. On me téléphonait, je répondais plus parce que j'avais pas envie de répondre. On m'écrivait sur Facebook, je ne répondais pas parce que j'avais pas envie d'expliquer. Les autres ne m'intéressaient plus et tout ce qui était autour ne m'intéressait absolument plus. C'était un repli sur moi total et un désintérêt total de tout ce qu'il y avait autour de moi.
Le matin, quand je me réveillais, ben, j'étais en train de pleurer, quoi. Je ne pouvais plus aller travailler, je n'en pouvais plus. J'étais épuisé. Je pense qu'on a un tel stress quotidien, qu'on est tellement sollicité par des coups de fil. Les sollicitations liées à notre métier, qui sont donc liées à la maladie, qui sont liées aux cas sociaux, qui sont liés à l'écoute, et donc pendant des journées entières, on est là à écouter, et soi-même, on n'a pas d'écoute. On ne peut pas se confier, on rentre, donc ça conduit à des divorces, ça conduit à des séparations, qui elles-mêmes accentuent le burn-out, qui accentuent l'isolement, et qui conduisent parfois, et même souvent, à des addictions, notamment l'alcool. Donc on recherche une aide quelque part dans un produit qui est connu comme anxiolytique, mais qui peut mener à la dépendance, et qui même, de toute façon, accentue la souffrance. Il y a eu des déclics, oui, par rapport à des décès de certains patients, par rapport à des décès de collaborateurs qui étaient proches et inattendus. C'est des charges émotionnelles intenses et naturellement, ça, c'est le déclenchant.
La première chose à faire, c'est d'arrêter les gens, c'est-à-dire les isoler de leur milieu pathogène, qui est le milieu du travail. Et souvent, en fait, les gens refusent déjà ça, parce qu'ils veulent continuer à travailler, c'est des gens qui sont très consciencieux. Donc, leur faire accepter que l'arrêt maladie risque d'être long, c'est-à-dire 1 mois, mais ça peut être 6 mois et ça peut être 1 an. Et puis, au départ, c'est surtout essayer de rétablir un équilibre d'hygiène de vie, sommeil, alimentation, qu'ils fassent du sport. Et ensuite, effectivement, moi, ce que je leur ai proposé, c'est des groupes de parole, d'échanges avec d'autres personnes qui souffrent de burn-out et une remise en mouvement par des groupes d'équithérapie. Voilà, une fois de temps en temps, faire du cheval, approcher le cheval pour leur redonner confiance en eux aussi.
Des groupes de parole ouverts à tous les patients de la psychiatre, un peu comme les alcooliques anonymes, chacun y raconte son vécu et comment il combat son burn-out. Là-bas, tous les corps de métier sont représentés, de l'informaticien au commercial.
Merci de ce partage. Qui veut continuer ?
Je vais essayer. Moi, je suis en burn-out et en dépression. Il n'y a pas très longtemps que je sais effectivement ce que ça veut dire. Moi, j'ai eu une vie professionnelle de commerciale indépendante pendant plus de 25 ans.
Les affaires étant de plus en plus difficiles, j'ai intégré une entreprise il y a 2 ans et demi en tant que responsable commercial pour la moitié de la France, donc ce qui impliquait beaucoup de déplacements professionnels. Et en fin de compte, depuis 2 ans et demi, ça a été l'enfer, quoi. Mes filleules, les filles de mon frère, m'appellent Marraine le clown. Bon, sauf que là, le clown, il est un petit peu au chômage depuis quelques temps. Donc c'est là que, effectivement, je suis allée pour un premier rendez-vous avec le docteur Moinet, qui a donc mis effectivement les mots de burn-out et de dépression sur ce que je ressentais. Sauf que c'est quelque chose que je n'accepte pas parce que ce n'est pas moi. Aujourd'hui, j'arrive à, grâce à ma fille qui va avoir 8 ans, à dire que je suis malade. Régulièrement, elle me demande quand est-ce que je vais retravailler. Alors, cette phrase-là, c'est... J'arrive juste à l'accepter de ma fille. Les autres personnes qui... me pose ces questions. Là, je veux plus parler, je me ferme comme une huître. Parce que je suis incapable de travailler. Je passe mes journées chez moi enfermée. J'arrive pas à sortir. Je suis toujours fatiguée, tout le temps. Je me repose ni la nuit ni le jour. Pardon. Et je sais pas comment faire pour ressortir de tout cela.
On sent la difficulté de parler du travail, hein, comme oui. Ça réveille encore beaucoup d'émotions chez vous. Hein. Merci de ce partage.
Je pense qu'il est tabou, qu'il était tabou justement parce que. Quand on est médecin, on ne veut pas reconnaître qu'on peut être malade. Hein. Et donc, même pour la population, je dirais un médecin, ça doit être quelqu'un qui est en bonne santé, hein, qui répond à tout et qui ne doit pas être défaillant.
Bien sûr, on a un sentiment de culpabilité parce qu'à bout d'un moment, on n'arrive plus à soigner. C'est-à-dire, il y a des patients que moi, je ne pouvais plus suivre. J'ai notamment des proches qui étaient en phase de fin de cancer et que je ne pouvais plus assumer. C'était impossible pour moi. J'étais trop épuisé, je ne pouvais plus prendre ça en charge. Impossible. Je ne pouvais plus. Je ne sais pas si la honte a sa place là-dedans. Si on n'en peut plus, on n'en peut plus, on peut plus. Voilà, c'est simple.
Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou plutôt de la dépréciation de moi. Alors, la culpabilité, oui, parce que je laissais quelqu'un aussi en place toute seule, alors qu'elle ne l'était pas, puisque automatiquement, mon poste était déjà attribué avant que je parte à quelqu'un d'autre. Mais dans ma tête, ce n'était pas encore acté. Hein. Donc oui, j'ai eu de la culpabilité vis-à-vis d'elle. Ce n'était pas de la culpabilité pour moi, c'était au contraire, je me fustigeais de ne pas être à la hauteur. Me dire, voilà, t'as fait des pieds et des mains pour être là, t'as fait ton concours de cadre, t'as fait un master pour être à ce niveau-là et tout, et puis résultat des courses, t'es même pas capable de faire les choses. Oui, bien sûr.
J'ai consulté un psychiatre et puis qui m'a hospitalisé, bien sûr. Et puis ensuite, voilà, j'ai été en arrêt de travail pendant très longtemps. J'ai pris des médicaments qui m'ont assommé, bien sûr, mais qui ne guérissent pas. J'ai dû prendre cette solution-là parce que je n'en voyais pas d'autres. C'était la fin, sinon je serais mort, je pense.
Au point où j'en étais, c'était une nécessité. C'était maintenant une nécessité que lorsque j'avais pas pris rendez-vous, par exemple, ou j'avais laissé passer, j'avais plus assez de médicaments, j'étais en rupture de traitement, j'avais des symptômes qui arrivaient. C'est-à-dire que, alors, quand c'était certains médicaments, c'est que j'avais tout d'un coup des vertiges, je tombais, je n'étais pas bien. Et autrement, il y avait aussi des moments où j'avais des moments de panique devant une situation... une situation inconnue ou qui ne rentrait pas dans mon rituel, tout d'un coup, je paniquais, je ne savais plus ce qu'il y avait à faire. Alors que c'était simple, pris de l'extérieur, hein, c'était simple.
Le soutien, c'est fondamental. Le soutien, c'est ce qui a manqué à la personne quand elle a commencé à faire son burn-out, puisqu'elle s'est retrouvée seule face à ses difficultés et généralement, elle s'est isolée. Elle n'en a parlé à personne, elle n'a pas trouvé d'aide à droite ou à gauche. Donc, le soutien, c'est la première chose qu'on essaye de remettre en place chez ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il faut que le conjoint comprenne que burn-out, c'est pas parce qu'on voulait pas, c'est parce qu'on pouvait plus.
Un soutien essentiel qui a manqué à Jean-Claude, technicien reconnu inapte au travail. Il était présent au groupe de parole.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, vous pensez, et qui a vraiment fait basculer les choses?
Alors le plus difficile, c'est la rupture avec certains collègues de travail avec qui je m'entendais très bien. Il y a une rupture quand même, on va dire, sociale, parce que le fait de s'isoler, comme je le disais, on se retrouve seul, mais vraiment très très seul. Il arrive même à un moment où cette solitude commence à peser, parce qu'on se dit vraiment, mais je suis seul. Mais le problème, c'est que les gens qui sont autour de vous, que vous ne cherchez pas du tout à approcher, justement, on s'isole de tout le monde, même de sa famille, même de ses amis, de tout le monde. Il arrive un moment où on se dit, mais attends, on se remet en face, au moins on se regarde, puis on se dit, mais j'ai besoin de monde quand même pour vivre, pour discuter, pour parler, échanger. Pourquoi ce groupe de parole? Pourquoi? Bah parce que là, j'ai besoin de voir du monde, de voir d'autres personnes, et puis bah, je m'aperçois que je ne suis pas tout seul à souffrir de cette maladie, en fait, de ce mal qui vous ronge intérieurement et que l'on a du mal à séparer. Hein. Donc il faut se donner aussi, bah, ça c'est pas dit à tout le monde, je sais pas, mais il y a une volonté après de se battre. Alors bon, elle arrive cette volonté, là je l'ai tout le temps, je veux me battre. Donc, je veux dire à tout le monde, faut surtout pas lâcher le morceau, quoi. Faut surtout continuer à se battre, à se battre, à se battre, à se battre.
Mes enfants, eux, ont tout de suite compris. Mon fils, ma fille étaient là, me téléphonaient, me mettaient un peu dans du coton. Ça me gênait de voir qu'ils se faisaient du souci. Mon mari voyait bien que j'étais pas bien, mais savait pas comment m'aider. Alors, de temps en temps, il voulait me secouer pour faire les choses. Et il ne comprenait pas que me secouer, ça ne servait à rien. Donc, ça n'a pas été facile pour lui tous les jours. Il s'énervait de temps en temps. Tu pourrais faire, oui, mais non, je ne peux pas faire. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je ne peux pas faire. On a l'impression que les autres ne comprennent pas. C'est difficile, on se sent seul, et puis oui, tout à fait.
Bah, les proches, c'est difficile d'en parler. Bien sûr, ils en souffrent également, puisque vous en parlez peut-être à votre frère ou à votre compagne du moment. Mais qu'eux-mêmes ont des problèmes, donc ils ne sont pas forcément à l'écoute. Et on ne peut pas tout le temps se confier, donc on se confie dans des endroits où il y a beaucoup de monde, on en parle, et puis voilà. On essaie d'oublier, et puis le lendemain, on repart, quoi. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, on s'épuise, et puis ça part en maladie.
Je pense qu'on en guérit vraiment si on a bien compris ce qui nous a amené au burn-out. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas compris qu'il y a des changements à faire sur leur manière de travailler, leur manière de s'engager dans leur travail, et peut-être il y a des choses des fois toutes basiques, il y a des gens qui ne savent pas dire non, donc c'est juste à réapprendre à dire non, à s'affirmer. Donc si les gens ne font pas ce travail de réflexion et compréhension, ils risquent de refaire un burn-out, puisqu'ils vont avoir les mêmes causes et les mêmes effets. Donc la personne qui prend vraiment le temps de réfléchir et qui rectifie finalement les points à améliorer, elle ne fera plus de burn-out.
Normalement, la guérison est consolidée, puisque d'abord, j'ai eu pendant 6 mois, j'ai eu une reprise à mi-temps thérapeutique. J'ai repris en tant que cadre pour essayer de me mettre dans une dynamique. J'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Et puis, c'était surtout pour moi une remise au travail, parce que s'arrêter pendant 1 an et demi et se remettre au travail, s'obliger à se lever à l'heure, s'obliger à s'intéresser à ce qui se passe, c'est pas aussi évident qu'on le pense. Un changement dans mon emploi du temps, c'est-à-dire un respect des horaires. Alors bon, je ne suis pas à un quart d'heure près, il ne faut pas exagérer, mais je veux dire, je ne reste pas des heures en plus, ça ne sert à rien. Que je fasse plus, personne ne me dira merci. Et surtout dans ma façon de considérer le travail. Et au fur et à mesure, j'ai pris aussi conscience que le travail, ce n'était pas toute la vie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis définie par mon travail. Et maintenant, j'en suis à me dire, ton travail, c'est une partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie.
Actuellement, ce n'est pas encore guéri. Le burn-out n'est pas terminé. Donc, je suis encore en phase de burn-out. Je suis en post-AVC, puisque l'AVC est récent, il date d'il y a 2 ans. Je pense que c'est lié au stress du travail, c'est lié à la surcharge de stress permanente pendant des années, pendant 40 ans, on va dire. Hein. L'épuisement est toujours présent et c'est dur de le constater. Il faut une prise en charge psychologique et également une prise en charge physique. C'est-à-dire qu'il faut un réentraînement, il faut plein de choses et il faut que les gens soient pris en charge. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure parce qu'ils sont complètement déréglés. Donc il faut une structure qui prenne tout doucement la personne en charge et la remette sur le chemin parce qu'autrement c'est pas possible. Pour l'instant, j'ai toujours ce problème de phobie administrative et de prise en charge de plein de choses. Je n'arrive pas à remettre un pied devant l'autre quoi, en ce moment. Donc c'est dur quoi.
C'était Le Blues des Blues, un documentaire de Charlotte Béchler, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.